Sud Radio, les vraies voix qui font bouger la France, Philippe Rossi.
19h27 sur Sud Radio, les vraies voix des entrepreneurs avec Denis Jacquet qui va nous rejoindre dans quelques instants, entrepreneur, fondateur du mouvement Day One. Ce soir, eh bien, on va revenir sur tous ces entrepreneurs que l'on vous a présentés cette année sur cette antenne. À cette heure-ci, d'ailleurs, il y en a eu beaucoup, hein, évidemment, beaucoup de success stories. Eh bien, on a décidé ce soir de faire un petit bilan sur le chemin parcouru. Yael est avec nous. Bonsoir Yael.
Bonsoir
à vous, ma chère Yael. Avant de retrouver Denis Jacquet qui va nous rejoindre. Alors Yael, cet automne, vous aviez participé à cette émission. Je rappelle que vous êtes à la tête de vêtements et d'accessoires. Vous avez créé votre petite boutique de vêtements et d'accessoires. Respectueux de
pas de vêtements, que d'accessoires.
Accessoires, sac à main. Ça va peut-être venir d'ailleurs, les vêtements, Yael. Ouais. Accessoires, sac à main, respectueux de l'environnement, recyclés notamment des sacs à main et pochettes pour femmes entièrement fabriquées à la main avec des capsules de canettes d'aluminium recyclées, une démarche 100% écolo. Bravo à vous, ma chère Yael. On peut dire le nom de la marque, évidemment.
Rebi.
Voilà, Rebi. Rebi, comment est née cette idée, Yael?
Alors, tout bêtement, une émission télé. Oui. Tout simplement, je visionnais, j'ai vu des artisans à Cuba confectionner ça à la main, faire des lampes, des objets d'art, et j'ai eu un coup de foudre. Mais vraiment, ça a été un coup de foudre. Mais au départ, pas du tout l'envie de créer une marque ou de créer des sacs à main.
Qu'est-ce que vous faisiez, Yael, avant d'avoir cette idée lumineuse qui vous a été inspirée? Qu'est-ce que vous faisiez?
Alors, ma belle-sœur et moi-même dirigeons aujourd'hui, depuis 2006, deux instituts de beauté à Nice, les instituts Volupté.
D'accord.
Voilà. Donc, c'est vraiment à part. Ça a été un coup de cœur en regardant une émission, en voyant ces sacs créés à base de languettes de canettes. Du coup, l'idée est venue, ça a été un très long chemin. Au début, ça a été fait uniquement, j'ai commencé à collecter quelques petites languettes pour m'amuser. J'ai commencé à créer un sac pour mes filles, pour moi. On m'a arrêté dans la rue, on m'a dit c'est magnifique, etc., etc. Mais l'idée de les récolter à même le sol me plaisait pas trop. Donc, du coup, je me suis rapprochée d'une usine et on a décidé d'avoir une fabrication différente, c'est-à-dire de faire fondre de l'aluminium en grande quantité et de créer mes propres canettes, en fait mes propres languettes de canettes. Ce qui fait que nous, on peut les colorer par rapport à d'autres personnes. On les colore en noir, en doré, en couleur.
Alors quand vous nous dites on s'est rapproché d'une usine, ça nous paraît très facile hein, quand vous nous dites ça. Évidemment, c'est beaucoup de travail et ça a un coût surtout. Ouais.
Exactement. Parce que les languettes, je les sors en fait, je les ramasse. C'est pas les languettes classiques de canettes de coca, c'est des languettes qui sont très légères, inoffensives et surtout inoffensives.
Alors comment vous faites quand vous vous rapprochez d'une usine, mais alors comment vous faites, quel type de production, à quelle cadence?
C'est de l'aluminium, c'est des grandes quantités de canettes, d'accord, d'aérosols que l'on fait fondre à 660 degrés. Enfin bon, après, il y a toute la technique. On fait fondre, on laisse refroidir et on fait nos propres... J'ai mon propre moule de canettes et on ressort les languettes. Et après, on les fabrique tous à la main.
D'accord.
Tout et ça, est fabriqué
la
à la
production
main.
À quel coût, par exemple, Yael? Quelle fourchette?
Ça a un coût assez élevé. Parfois, les personnes ne comprennent pas parce qu'on dit « Oh, mais c'est du recyclable, c'est pris dans la rue », mais non. Ce sont pas des canettes à même le sol qu'on nettoie, qu'on lave et qu'on refabrique et qu'on ressort une collection.
Voilà. Et alors, à ce moment-là, vous aviez les moyens d'investir dans ces sacs à main recyclables. Vous nous avez dit que vous étiez à la tête avec une personne de votre famille de deux instituts de beauté.
Voilà.
Est-ce qu'à ce moment-là,
c'était
compliqué pour vous? Est-ce que finalement, vous aviez eu les moyens d'investir et peut-être même de subir un échec?
Voilà, j'ai mis de l'argent personnellement et j'ai commencé petit et je suis encore petit, mais j'espère progresser avec le temps.
Ouais.
Aujourd'hui, voilà, allez-y.
Ouais, cette démarche écolo, elle était ponctuelle ou effectivement, depuis de nombreuses années, vous aviez
honnêtement.
Oui.
Écolo. Non, honnêtement, c'est pas moi qui ai choisi d'investir sur le recyclable, ouais. C'est le produit qui m'y a mis.
D'accord. Très bien.
C'est vraiment le produit. Mais après, l'idée a été, été magique de pouvoir créer une collection éco-responsable en même temps.
Voilà. Et après, j'imagine que tout s'enchaîne. Donc finalement, on trouve une usine, on produit, on fabrique, on crée un petit site internet et ensuite on attend la réponse des potentiels, des éventuels clients et clientes. Vous avez eu des retours positifs très vite, Yaël ?
J'ai eu des retours positifs, surtout, voilà, ça fait un an et demi maintenant. Et je rembourse, donc sous 15 jours, si le produit ne plaît pas, et ça ne m'est jamais arrivé. Donc ça, c'est très satisfaisant de savoir que les personnes sont ravies, mes clientes sont ravies, j'ai des photos, elles me remercient, et en général, elles se lancent sur un deuxième achat.
D'accord. Comment on communique, comment, quand on lance un site internet, on communique essentiellement sur les réseaux sociaux. On se rapproche du référencement Google, mais ça coûte très cher, évidemment, d'être bien référencé sur Google. Comment ça se passe dans les premiers temps, Yaël, pour faire connaître sa marque et son site internet?
Voilà. Alors, j'ai pris quelqu'un qui m'a aidé dans la communication, qui a eu les influenceurs, la pub Facebook, la pub Insta. Au quotidien où on met des petits budgets, hein, on peut mettre 10 euros, 5, 10 euros par jour qui vous font connaître.
Ouais, vous avez travaillé.
Mais c'est long, hein, c'est long.
C'est très long.
Et c'est très long. Et surtout, j'ai la chance, justement, grâce à mes deux instituts avec ma belle-sœur Volupté, de pouvoir les mettre en vitrine. J'ai 5-6 points de vente aussi. Du coup, j'ai eu des professionnels qui sont venus à moi en me demandant s'ils pouvaient en acheter et les mettre dans leur boutique. Et c'est ainsi que. C'est une vitrine, parce qu'il faut la communication, mais il faut les vitrines.
Ouais. Vous avez travaillé avec des célébrités, Yaël. Vous nous parlez d'influenceurs et influenceuses tout à l'heure pour promouvoir la marque.
J'ai eu la chance d'avoir Victoria Silverstedt, qui a quand même porté mon sac banane.
Ouais. Un sac. Alors, qui est Victoria, pour ceux qui nous écoutent et qui ne connaissent pas?
Victoria, c'est une mannequin. Déjà, à l'origine, c'est une grande mannequin. Elle avait fait beaucoup la roue de la fortune. Avec
ouais,
De Chavannes.
Ouais.
Voilà, elle est magnifique. Et puis, j'ai eu une grande mannequin aussi, Ofit Golan, une mannequin israélienne magnifique, qui a porté lors du Festival de Cannes l'année dernière.
D'accord. Et tout ça, évidemment. Alors, tout ça, évidemment, on sent l'impact de ces deux top modèles très vite, Yaël, quand elle décide de porter votre sac et de le publier sur les réseaux sociaux.
Oui, bien sûr. Bien sûr, il y a beaucoup de gens qui veulent s'identifier. Ça... Oui, bien sûr. Bien sûr, ça. Ouais. Les influenceurs nous aident beaucoup, c'est certain. Mais après, je pense que la vitrine, il ne faut pas négliger les vitrines dans les boutiques.
Ouais. Alors justement, vous êtes passé d'un site internet à plusieurs points de vente. C'est ce que vous nous expliquez. C'est à chaque fois où se situent vos points de vente d'ailleurs, Yaël?
Alors, donc, j'ai dans mes instituts, j'ai la boutique Kanzé à Nice, j'ai une autre boutique qui s'appelle Iliash à Nice. Dans une plage aussi, la petite plage à Joint-les-Pins.
Ouais.
J'ai la boutique Vincenzo qui est à Saint-Paul-Trois-Châteaux. Et la boutique Pamplemousse à Venelle.
D'accord. Toutes ces boutiques, évidemment, on ne gère pas une boutique comme on gère un site internet. Qu'est-ce qui est finalement le plus difficile à gérer? Alors, on pense tous que c'est le site internet qui est le plus difficile. Évidemment, vous allez nous répondre les boutiques?
Non, moi je vais vous dire le site internet.
Ah, d'accord.
Également. Parce que les boutiques, une fois qu'elles me les ont achetées, c'est elles qui gèrent.
Et elles marchent bien, voilà. Ces boutiques, Yaël?
Elle marche bien. Ouais. Ouais.
C'est-à-dire
ouais. Bon, là, c'est vrai que...
Sans rentrer dans les chiffres de comptabilité, ça ne nous intéresse pas, mais...
Non. C'est une fréquence de commandes qui est assez régulière. On va dire, tous les deux mois, elles me font une jolie commande.
Ouais.
Et bon, après, il faut aussi savoir j'ai commencé dans une pandémie compliquée.
C'est vrai, il y a eu la crise de Covid. Évidemment, entre-temps, on a beaucoup parlé cette année dans les vraies voix des entrepreneurs, de ces entrepreneurs finalement qui ne comptent pas leurs heures, qui travaillent de 9h du matin à 20h, 22h, qui n'ont pas de week-end, qui travaillent également le samedi et le dimanche. Vous, avec votre belle-sœur, vous avez deux instituts de beauté et puis une marque. Comment ça se passe, Yaël? À quoi vous carburez?
À quoi je carbure?
Ouais.
La passion,
ouais.
L'envie, la détermination.
Ouais.
Voilà, et le plaisir d'aimer de faire ce que j'aime.
Ouais. Vous confirmez qu'il n'y a pas d'horaire, parfois il n'y a pas de week-end?
Non. J'ai des clientes qui m'appellent parce que j'ai mon numéro de téléphone sur le site internet, je suis en chat, c'est toujours moi qui suis derrière, c'est personne d'autre. J'ai des clientes qui, pour se rassurer que quand elles achètent un produit, ce n'est pas de la fraude, qui vont m'appeler un dimanche, que ce soit à 8h du matin ou 22h, 23h, il n'y a aucun problème. Si je suis disponible, je réponds.
Ouais.
Alors, ce qui est normal, parce que je comprends.
Et pour finir, et juste avant de retrouver Denis Jacquet qui va nous rejoindre et qui va nous dire justement ce qu'il pense de votre parcours, qui est un parcours typique et atypique d'entrepreneur, quelle est l'ambition, votre ambition pour la suite? Quand vous avez eu, il y avait le site internet, maintenant vous nous dites qu'il y a des boutiques physiques. Quelle est pour vous votre ambition? Quelle serait la suite logique, Yaël, pour votre marque Rebi?
Ça serait de continuer à être visible dans les boutiques, parce que vraiment, c'est important d'avoir une visibilité dans les boutiques, de grossir aussi dans le site internet, d'avoir des clientes qui me disent je veux avoir un Rebi bag, je veux me porter mon Rebi bag. Voilà, c'est tout ça. De continuer à pouvoir créer d'autres collections et,
ouais,
et surtout à faire plaisir aux femmes.
Bon, alors, merci pour votre témoignage. Yaël, j'espère que ça a donné envie à beaucoup de personnes de rester avec nous, Yaël. J'espère que ça a donné envie à beaucoup de personnes de se lancer peut-être dans l'entrepreneuriat ou en tout cas de continuer dans leur vie d'entrepreneur. Denis Jacquet est avec nous. Bonsoir, Denis.
Bonsoir.
Denis Jacquet, entrepreneur fondateur du mouvement Day One. Oui, on vous entend, Denis. Alors, vous connaissez Yaël, Rebi, Denis Jacquet, puisque c'est vous qui me l'avez fait connaître il y a quelques mois dans cette émission. Elle avait un site internet à l'époque avec donc ses sacs, hein, respectueux de l'environnement, recyclés, des sacs à main et pochettes pour femmes, fabriqués à la main avec des capsules de canettes d'aluminium recyclées. Eh bien, aujourd'hui, il y a beaucoup de choses qui ont changé puisque maintenant, elle a des points de vente physiques. Qu'est-ce que vous inspire le parcours de Yaël, Denis Jacquet, qui ressemble au parcours de beaucoup, beaucoup d'entrepreneurs qui travaillent d'arrache-pied pour lancer leur petite entreprise et surtout la faire évoluer?
Bon, en fait, il y a deux. D'abord, bonjour Yaël, bonjour Philippe.
Bonjour. Désolé, on avait
des petits problèmes d'accès. Là, je suis en Afrique et j'ai l'impression que mon internet était un peu capricieux. Donc, désolé pour ça. Mais
c'est pas grave. Bonjour à tous. On vous a, c'est l'essentiel. Oui, Denis.
Voilà, Philippe. Donc, moi, deux choses. La première, c'est l'adaptabilité. C'est quand même la qualité principale d'un entrepreneur ou d'une entrepreneuse. C'est-à-dire s'adapter aux conditions. Et Dieu sait si ces trois dernières années, les conditions ont changé à peu près toutes les 24 heures.
Oui.
Donc, que ce soit le contexte économique global ou la crise du Covid. La deuxième chose aussi, cette espèce d'équilibre qu'on continue à avoir dans un monde pourtant de plus en plus digital entre le physique et le virtuel. C'est-à-dire qu'en fait, tout le monde nous avait promis dans tous les compartiments que le digital remplacerait totalement notre vie physique. Alors, c'est vrai que progressivement, ça se fait. Mais pour l'instant, c'est toujours une question d'équilibre. Et cet équilibre entre le virtuel et qu'il soit pour le commerce, qu'il soit pour l'éducation, qu'il soit pour la communication. Voilà, aujourd'hui, on fait tous les trois quelque chose en Zoom, mais à un moment donné, il se passe des choses quand on est dans un studio qui ne se passeront jamais sur Zoom et réciproquement.
Oui.
Donc, tout est dans une histoire d'équilibre. Je pense que l'histoire de Yaël, c'est l'histoire la résilience, l'adaptabilité et l'équilibre entre le digital. Et puis, le dernier mot peut-être, c'est celui de l'impact, parce que c'est une question qu'on se pose tous, de savoir si les grands discours qu'on avait avant la crise sont toujours valides aujourd'hui, où il y aura plus d'argent, beaucoup de dettes, une crise, une récession, peut-être pire, un écrasement ou un éclatement. Bon, est-ce que toute la question du développement durable, de l'impact, va rester une question essentielle ou est-ce qu'elle va un peu s'évaporer sous le soleil ardent des crises? C'est une bonne question à se poser, mais manifestement, les entrepreneurs et peut-être les institutions restent encore motivés par l'impact, donc c'est rassurant.
Ouais. Vous parlez de la crise sanitaire et du Covid qui a changé beaucoup, beaucoup de choses. Vous le sentez ça, Yaël, puisque vous avez créé aussi votre marque et entre-temps, il y a eu cette crise sanitaire que l'on connaît tous. Qu'est-ce qui a changé avec la crise, Yaël, dans le comportement des clients, par exemple, et aussi dans le comportement des entrepreneurs comme vous, dans leur façon de faire, de vivre, de travailler?
Oui, bien sûr que ça a énormément changé. Les gens ont peur, les gens font attention,
ouais.
Les gens s'inquiètent. Il y a des achats compulsifs parce que parfois ils ont envie de se faire plaisir, ils n'en peuvent plus. Et puis après, il y a la peur du lendemain. On se réfrène, on pense au lendemain, on fait attention. Le comportement, oui, bien sûr. Surtout, je le vois même parce que je côtoie les clientes au sein de l'Institut. Et rien n'est pareil.
Ouais, vous avez créé votre marque.
Mais après, aujourd'hui, on sent vraiment une envie. Les gens ont envie de vivre, de malgré tout. Maintenant, ils en ont marre, donc ils ont envie de vivre, de s'amuser, de profiter.
Vous avez créé votre marque avant l'apparition de l'épidémie, Yaël?
Oui, oui. Enfin, alors, tout a été mis en place avant, bon, mais bien. C'est sorti en novembre.
Évidemment,
novembre
si jamais vous aviez vu ce fameux reportage qui vous a donné cette idée lumineuse pendant la crise sanitaire du Covid, est-ce que finalement vous auriez concrétisé et vous vous seriez lancé dans cette aventure ou pas, Yaël?
Non, honnêtement, je ne pense pas.
Ouais.
Non, j'aurais eu peur. J'aurais attendu.
Ouais, cette crise du Covid qui a changé beaucoup de choses. Et pour finir cette première partie, Denis Jacquet, je vous pose la même question qu'à elle. Qu'est-ce qui a changé cette crise du Covid dans la mentalité de tous ces entrepreneurs? Est-ce que finalement, vu qu'ils ont vécu le pire et qu'on a vécu le pire, entre guillemets, avec surtout le premier confinement, ils se disent, bon, finalement, on n'a qu'une vie, il faut réaliser ses rêves. Et tant pis si ça ne marche pas. Et même parfois, ils se diront peut-être tant mieux si ça ne marche pas.
Oui, je crois que sur l'envie d'entreprendre, elle n'a pas été affectée par le Covid. C'est plutôt du côté des investisseurs que les questions commencent à se poser. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a des investisseurs qui disent « Bon, attendez, on va temporiser un petit peu, on va attendre de voir comment ça se passe. » Et on voit bien qu'il y a des décisions d'investissement qui sont soit diminuées, soit freinées, soit carrément annulées provisoirement en attendant de se dire « Bon, est-ce qu'on va vers une récession? Est-ce qu'on va s'en sortir ?» est-ce que la crise va encore durer? Il faut qu'on se fasse un matelas. Donc, on voit bien qu'en fait, c'est pas l'envie des entrepreneurs qui est freinée, c'est l'envie de ceux qui les financent. Et ça, c'est un petit peu embêtant parce que, bien évidemment, sans faire de mauvaises analogies, mais sans énergie, on va pas très loin. Ouais. Et l'énergie, en matière de start-up, c'est quand même le capital, c'est quand même l'argent, c'est l'investissement. Donc, c'est ça qui, à la limite, aujourd'hui, m'inquiéterait le plus. L'envie des entrepreneurs, elle est intacte parce que, quand on veut entreprendre, je veux dire, contre vent et marée, de toute façon, on se lance à l'eau, on a envie d'y aller et il n'y a rien qui puisse nous arrêter.
Ouais. Merci Yaël, merci à vous. Je rappelle donc le nom de votre marque.
Merci.
Voilà, sac à main et pochette Ruby pour femmes, entièrement fabriquées à la main avec des capsules de canettes d'aluminium recyclées. Quelle est l'adresse du site internet où on peut retrouver ces sacs?
C'est Ruby.fr.
Voilà, Ruby.fr. Merci à vous Yaël. Merci Yaël, bon vent et bon courage pour la suite. On va se retrouver dans quelques instants. Tiens, Denis Jacquet, et vous restez avec nous. On sera avec Jean-Claude Delgène pour commenter cette étude qui alerte sur la santé mentale des jeunes salariés. On se retrouve dans quelques instants. À tout de suite.
Sud Radio, les vraies voix qui font bouger la France. Philippe Rossi.
Les vraies voix des entrepreneurs sur Sud Radio avec Denis Jacquet, entrepreneur, fondateur du mouvement Day One. Jean-Claude Delgène qui nous a rejoint. Bonsoir Jean-Claude Delgène.
Bonsoir.
Président du cabinet Technologia, bonsoir à vous. On va donc parler de cette étude Malakoff Humanis, étude qui nous alerte sur la santé mentale des jeunes salariés. C'est inquiétant, hein. Les salariés de moins de 30 ans qui sont plus souvent arrêtés que l'ensemble des salariés. La cause principale, eh bien, la pression et la charge de travail. Alors, on va aller un petit peu dans le détail, on le commentera ensuite avec vous, Jean-Claude Delgène, et j'aimerais avoir votre avis, Denis Jacquet. 23% des salariés de moins de 30 ans qui jugent négativement leur santé mentale contre 16% pour l'ensemble des salariés. 48% d'entre eux déclarent mal dormir. 42% se disent stressés, voire très stressés. 34% sont émotionnellement épuisés, voire à bout de force. À bout de force, c'est ce qu'ils disent. 44% des jeunes accusent le contexte professionnel, hein, notamment l'intensité, le temps de travail, les rapports sociaux qui se sont largement dégradés, tandis que 28% d'entre eux, ça fait beaucoup de chiffres, hein, mais c'est important, pointent du doigt des raisons personnelles, notamment leur situation financière. Est-ce que vous êtes étonné, Jean-Claude Delgène?
Écoutez, non, toutes les études menées depuis maintenant 2 ans convergent vers ce constat qui est très préoccupant, hein, qui montre bien que la jeunesse que l'on peut situer de la sortie de l'adolescence, 16-17 ans, jusqu'à 27-28 ans, voire 30 ans, a payé un lourd tribut au cours de la dernière période à la crise. Alors, il faut comprendre que traditionnellement, cette période de vie est très importante parce que c'est celle de l'affirmation de soi, c'est celle de la réalisation de nombreux choix, celle de la création de son identité personnelle, voyez. Et dans les circonstances que l'on a connues depuis maintenant 10 ans, il y a eu énormément de traumatismes. Alors aujourd'hui, ça prend un caractère un peu difficile à comprendre, mais il faut bien saisir que depuis 10 ans, on a eu par exemple l'horreur du terrorisme avec les jeunes qui ont vu les drames du Bataclan, les drames de Charlie Hebdo, les horreurs de Nice. Ils ont vu un professeur se faire assassiner comme Samuel Paty. Vous voyez, donc, Il y a eu ces traumatismes que l'on peut rajouter aujourd'hui avec, bien sûr, la cause environnementale qui est quand même assez... plus la guerre est rajoutée à la crise sanitaire, tout ça, ça fait beaucoup. Et il y a eu énormément de... Dans toutes les études, on le voit, il y a en fait des traumatismes additionnels qui génèrent, en fait, ce qu'on appelle aussi des blessures psychiques, c'est-à-dire des gens qui vont très mal. Et donc, on constate une progression des dépressions, une progression des suicides aussi, hein, faut le noter. La dernière étude de la Fondation Jean Jaurès, qui a été publiée dernièrement, montre cette inquiétante progression chez les jeunes, le suicide étant la deuxième cause de mortalité entre 16 et 25 ans. Vous voyez, donc, on a une situation très préoccupante, mais ce qui est aussi préoccupant, c'est qu'on ne répond pas à ce besoin des jeunes aujourd'hui. Et pas suffisamment, il y a beaucoup à faire et rien vraiment ne se fait réellement. Et c'est ça qui est inquiétant, c'est-à-dire qu'on laisse les jeunes, on laisse les familles à eux-mêmes, il n'y a pas de vrai dispositif. On a mis en place, par exemple, durant la grande crise, un dispositif heureux hein, qui était le quoi qu'il en coûte pour sauver les entreprises. C'était très bien, moi je l'ai salué. Ceci dit, on a tardé vraiment à mettre en place un filet psychologique pour aider les jeunes, pour aider les familles, pour éviter qu'il n'y ait... Alors aujourd'hui, par exemple, il faudrait favoriser beaucoup plus largement le recours à des psychologues qui sont des, je dirais, des professionnels qui peuvent aider à traverser les périodes difficiles des jeunes. Or, aujourd'hui, le coût d'un psychologue, c'est entre 40 et 70 euros, plutôt 60-70 d'ailleurs dans la région parisienne, c'est un coût rédhibitoire, parce qu'il faut plusieurs séances, c'est pas en une séance qu'on règle le problème. C'est parfois 10, 20, 30 séances dans l'année pour pouvoir aider le jeune. Or, ce n'est pas du tout pris en charge. On a un dispositif qui a été mis en place depuis avril qui permet de prendre en charge à hauteur de 40 euros pour la première séance et de 30 euros pour les autres séances, pour 8 séances maximum, mais ce n'est pas suffisant. D'ailleurs, peu de psychologues optent pour ce dispositif. Donc les familles, elles sont démunies, elles sont confrontées à de telles difficultés, elles sont démunies. Et quand vous êtes en milieu professionnel, que vous commencez à être absent, que vous êtes dépressif, etc., très vite, loin des yeux, loin du cœur, très vite, vous êtes sur la sellette,
Jean-Claude, selon cette étude, je donne la parole dans un instant à Denis Jacquet, la cause principale, c'est la pression et la charge de travail. C'est-à-dire qu'avec le Covid et tout ce qu'on vit, tout ce que ces jeunes vivent depuis 10 ans, ils sont fragilisés, ils la supportent moins bien, cette pression.
Alors, on a une mutation très importante, parce que c'est vrai que avec la mise en place du télétravail, on a constaté, nous en France, que dans nos études à Technologia, que les managers n'étaient pas du tout formés pour pouvoir accomplir cette mutation. Vous prenez la Finlande, 32% des actifs avaient déjà travaillé en télétravail. Nous, en France, on était à 7%. Donc, les managers n'étaient pas vraiment formés. Ils n'ont pas accompagné. On est passé donc de 7% à peu près 38% de personnes qui sont tombées, qui sont dans la piscine un peu. Il y a eu donc un apprentissage douloureux qu'il fallait faire, mais qui était très douloureux, avec des gens qui ont dû effectivement se démener pour démontrer leurs valeurs, pour ne pas disparaître de l'entreprise, des cas de ce qu'on appelle de burn-out numérique, avec des gens qui travaillaient dans des tunnels de 8h du matin à 8h du soir pour démontrer leurs valeurs. Vous voyez, donc, avec des démarches sacrificielles, on a eu donc une montée des dépressions et des burn-out dans un système où la charge de travail est restée la même, voire elle s'est accentuée. Pourquoi ? Parce que tout simplement, les managers qui ne savaient pas vraiment multiplier le soutien, faire preuve de compassion, faire preuve, je dirais, d'empathie, ont souvent surchargé la bête en disant il est chez lui, je lui donne beaucoup de travail, au moins ça lui évitera de regarder la télévision. Parce que c'est ça la réalité. Très souvent, le télétravail a été considéré comme étant télévision par les managers. Or, ce n'est pas du tout le cas. On voit bien que le télétravail est une aspiration pour les salariés, qu'elle a tardé à se mettre en place. Quand elle s'est mise en place, les gens ont répondu présent, sauf qu'ils n'ont pas été accompagnés en matière de management.
Et que maintenant, elle est plébiscitée par les salariés, le télétravail. Denis Jacquet, j'aimerais avoir votre réaction sur cette étude, évidemment, sur ces salariés, ces jeunes salariés qui vivent de moins en moins bien la pression, la charge de travail, et surtout, il nous le disait, Jean-Claude Dalgen, ces managers qui ne sont pas formés, finalement. Denis Jacquet.
Plusieurs choses. La première, comme j'ai eu très longtemps une société de e-learning, dans cette société, on a fait tous les premiers gros modules de toutes les grandes entreprises françaises sur le télétravail. La première chose qu'on avait constatée à l'époque, en faisant ça, c'est que pourquoi on le faisait, il fallait absolument le faire, et je confirme ce que disait monsieur, c'est que le télétravail, ça s'apprend. En réalité, le télétravail, ça ne s'improvise pas. Ça s'apprend pour ceux qui télétravaillent et ça s'apprend pour ceux qui télémanagent. Et en fait, les deux arrivaient à des travers incroyables. Les managers étaient complètement dépassés parce que, n'ayant plus leurs troupes sous la main, ils avaient l'impression de perdre le pouvoir et donc, du coup, étaient complètement perdus et donc rugissaient de stratagèmes pour faire en sorte que les gens bossent pratiquement 24 heures sur 24, sinon ils avaient l'impression de plus les contrôler. Et les télétravailleurs qui étaient complètement en dehors du lien social quotidien dont on a tous besoin, parce qu'on il faut pas oublier qu'on est des animaux et qu'on a besoin de se renifler et de se sentir, perdus par cette absence de lien social, étaient à plus de 20% tombés dans des addictions, des dépressions, dépendance de l'alcool, de la drogue. Vous prenez 10 ou 20, pas les 3 kilos du Covid, hein, 10 ou 20 kilos en 1 ou 2 ans, tout simplement parce que ils n'arrivaient pas à gérer le réfrigérateur. Donc, c'est des trucs aussi idiots que ça, mais qui vous ruinent la vie. La deuxième chose, bon, ça, je reprends mon cheval et mon dernier bouquin, mais on a managé en France, au Canada, en Australie, les gens par la peur pendant 2 ans pour leur faire croire qu'on allait tous mourir, ce qui était juste la plus grande supercherie du siècle, pour protéger les plus âgés, et on a sacrifié les plus jeunes. Bon. Donc, c'est un choix qu'on a fait très rapidement en toute connaissance de cause. On savait qu'on créait des pauvres dans le monde, on savait qu'on créait de la violence aux femmes, elle a augmenté de 30%, on savait qu'il y avait une augmentation des dépressions dès les 8 ou 9 premiers mois, chez les jeunes Américains, les jeunes Français, à plus de 25% de tentatives de suicide supplémentaires, et on a dit, on n'en a rien à faire, ce sont les plus âgés qui votent, et c'est ceux-là qu'on va protéger. C'est un calcul électoral, maintenant, on le sait tous. Donc, du coup, il y a eu la supercherie de la protection sous le prétexte de la santé, qui était un prétexte politique. Donc, du coup, on a gouverné par la peur, on a fait une génération d'anxieux. Et la troisième chose, et je vais faire mon vieux pour une fois, ce qui m'arrive assez rarement, mais si vous voulez, ma mère, qui est de la génération, de la Shoah, de la génération des bombes qui lui sont tombées dessus, si vous voulez, le Covid, ça ne l'a même pas affectée. Elle est insubmersible. Nos enfants aujourd'hui à nous, qu'on a beaucoup protégés, qu'on a beaucoup confortés, à qui on a donné un confort qu'on n'a pas eu, moi je viens d'une famille modeste, forcément nos enfants, ils sont plus sugar-coated, comme disent les Américains, donc c'est cette petite couche de sucre qui les enveloppe. Et donc du coup, cette pression, moi je bosse, monsieur disait de 8h du matin à 8h du soir, je bosse de 7h30 du matin à 21h le soir depuis 20 ans, j'ai pas l'impression de sentir le moindre burn-out ni pression, mais c'est parce que j'étais construit comme ça. Mes enfants, je suis sûr qu'ils ne supporteront pas ce type de pression, parce qu'ils sont plus perméables à ce truc. Donc, ils ont souffert et on vient de sacrifier une génération sans aucune raison valable, et surtout en le sachant. Et dernier petit mot, on
Oui,
parle
très
des
vite,
jeunes,
Johnny. Ouais.
parlons des femmes. J'ai assisté à une conférence aux États-Unis où je vis maintenant il n'y a pas longtemps, et cette femme, qui est une grande militante féministe, disait, mais dans les 6 premiers mois, on savait que la violence faite aux femmes avait augmenté de 30% et qu'on livrait les femmes à leurs bourreaux.
Ouais.
Aucun politique n'a voulu les
ouais.
écouter.
Merci Denis Jacquet, entrepreneur, fondateur du mouvement Day One. Merci à vous, hein, Jean-Claude Delgène, président du cabinet Technologia. Dans quelques minutes maintenant, restez avec nous, le Loft Music avec Greg Zlap. Greg Zlap qui fait son loft, invité par Yvan Cujus, à tout de suite.